Bienvenue sur Industry for Good, le podcast qui pose un regard nouveau sur le monde de l'industrie. Un programme audio indépendant, présenté par Aurélien Goyer.
La personnalité que nous recevons ce jour est de celle qui refuse de se laisser définir par une seule trajectoire. Et ça, sur le papier, ça nous plaît beaucoup. Ça nous plaît beaucoup en particulier quand la dite personnalité impacte à l'heure même où nous vous parlons deux domaines que nous décryptons sur cette émission, l'industrie et la politique. Notre invité peut difficilement mieux incarner une des phrases que l'on aime à partager et répéter sur Industry for Good, et je vous la cite, « Il n'y a rien de plus numérique que l'industrie et rien de plus industriel que le numérique ». Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement chargé de France 2030. Bonjour Bruno, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, heureux d'être ici.
Merci de votre présence. Alors, moi, ce que j'aime bien chez vous, Bruno, et on ne se connaissait pas avant l'émission, c'est qu'on sent dans votre parcours que vous avez fait le choix de ne rien vous interdire. Vous êtes passé par une formation en maths, chimie, ensuite il y a eu l'économie, les machines spéciales, le commerce, l'écriture, la politique et même la télévision. On va développer un petit peu tout ça, mais ma question ici, c'est avant tout la suivante. Est-ce qu'il y avait un plan de carrière derrière tout ça ?
Non, il n'y a jamais eu de plan de carrière, parce qu'au départ, je voulais être cosmonaute. Donc, on est très, très loin de mon plan de carrière initial. Non, il y a eu la vie qui vous emmène de jeune élève à étudiant à étudier le futur. J'ai toujours une passion pour ce qui allait se passer demain. Mon seul regret, c'est que je ne verrai pas le siècle prochain. Mais non, il n'y avait pas de plan de carrière. Il y avait surtout des opportunités. C'est à ne pas lâcher, à ne pas perdre, à attraper.
Si vous aviez, alors, exercice pas simple au demeurant, si vous aviez 3 minutes, 3, 5 minutes, on ne vous en voudra pas, pour dépeindre votre parcours quelque part, ça donnerait quoi ? Parce que vous êtes entré en politique en 2012 et surtout, avant cela, il y a une vraie histoire en fait où vous avez plein d'histoires professionnelles qui se sont entrelacées avant ça.
Mon parcours politique, il est en 3 grandes sections. Bon, d'abord, il y a eu la partie, mon programme pardon, de vie, pas politique simplement. Il y a eu d'abord la partie apprentissage et expérience. Ça a été les années de l'entrepreneuriat, en sortant de l'école quasiment, hein, à quelques mois près, se lancer dans cette aventure qui s'appelait le jeu vidéo, que les banquiers ne connaissaient pas comme terme, donc c'était assez complexe à vendre. Ça a duré 25 ans. Ensuite, il y a eu un moment où je m'étais intéressé à la transmission. Transmission, ça veut dire tout ce que j'ai appris de toutes ces années, après avoir quitté Infogrames, je vais le mettre au service d'autres personnes qui s'essayent à l'entrepreneuriat. Et là, cette transmission, elle s'est traduite en deux choses. D'abord, un engagement auprès d'une école, l'EM Lyon, dans laquelle j'ai été président de l'école pendant 7 ans, et ça m'a permis de voir un petit peu comment on pouvait évoluer dans les méthodes de formation. Et puis, financier, puisque j'ai fondé un fonds d'investissement qui s'appelle Revolution Capital, et dans lequel on a permis à des personnes, à l'époque, en 2010, de se lancer dans la robotique, qui était aussi un des mots un peu inconnus de l'époque, la robotique de service. Et puis, ma troisième partie de carrière, c'est l'engagement. Donc après, effectivement, l'expérience, puis la transmission, c'est l'engagement. Et c'était en 2017, à la rencontre du candidat à l'époque, Macron, l'engagement en politique qui se poursuit aujourd'hui. Donc finalement, un cycle assez cohérent. Je ne sais pas quel sera le prochain, mais jusqu'à maintenant, j'arrive encore à l'expliquer.
Si on revient à la partie vraiment entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait que vous allez à un moment donné dans le... Alors, vous avez fait plein de choses, mais qu'est-ce qui fait en particulier que vous allez à fond dans le jeu vidéo ? Il y a une passion personnelle, vous voyez quelque chose qui est en train de se passer, vous y voyez des opportunités business ou les trois. Enfin, comment ça se passe ? Comment vous atterrissez dans ce monde-là ?
Bah, d'une façon un peu paradoxale. D'abord, je fais pendant mes études un travail important sur l'informatisation de mon école. Donc, j'apprends un petit peu ce que ça veut dire le micro-ordinateur et le micro-processeur, qui étaient des mots très obscurs dans les années 80. Hein. On est en train de parler des années vraiment 80, littéralement. Ça décollait, ça démarrait, on ne savait pas trop où ça allait. Apple était en balbutiement. L'IBM PC n'était pas encore là. Il allait arriver à un an près. Et suite à ça, je me lance dans la commercialisation des premiers ordinateurs dits familiaux. Et en écrivant d'ailleurs à l'époque des notes et des ouvrages qui s'appelaient « Un ordinateur, mais pourquoi faire ?» C'était là où on ouais. était la France dans les années 80. C'est à quoi ça pouvait bien servir cette drôle de machine qu'on branchait par une prise Péritel à son téléviseur. Donc c'était vraiment la préhistoire. Et là, tout de suite, je me suis rendu compte qu'on pouvait espérer faire coder des gens. On pouvait leur faire de la programmation, mais que la grande majorité allait être des consommateurs. Et donc, c'est là que, très vite, avec mes associés de l'époque, on a basculé dans la génération de contenu. Et le contenu qui avait le plus d'appétence, c'était le jeu. Donc, voilà comment ce petit parcours s'est fait. Découverte technologique, compréhension du marché, et puis finalement, livraison de ce que le marché demandait à l'époque, avant de l'anticiper, mais ça, c'est un peu plus tard.
Dans la partie transmission, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous préfériez dans cette partie-là? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? La partie toute l'époque, M-Lyon, etc. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Ce qui était le plus intéressant dans la transmission, c'est véritablement l'énergie qu'on voit sans cesse renouveler des entrepreneurs. Alors, tous pour des raisons différentes. Vous savez, moi, quand j'ai commencé, c'était les périodes de Bernard Tapie. C'est-à-dire que entreprendre, c'était l'émission à la télé Ambition. C'était formidable. On voyait un type qui avait une énergie folle nous raconter des histoires. Pas très loin, d'ailleurs, de qui veut être mon associé aujourd'hui. Hein, quand on fait la résonance des deux, il y avait la même pêche, les mêmes côtés un petit peu, je vais donner sa chance non pas aux chansons, mais la chance aux entrepreneurs. Mais il y a un renouvellement constant. Là où c'est un peu plus surprenant, c'est que les motivations ont changé. Il y avait une motivation à vraiment faire du pognon, d'une façon littérale. Elle descend actuellement par rapport à la quête de sens et faire du bien. Et je pense que cette idée, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir voir à votre émission, c'est cette idée de se dire que finalement, la responsabilité de l'entrepreneur, c'est pas juste combien il s'en met dans la fouille, mais c'est aussi... quel impact il peut avoir autour de lui, qu'il soit avec les gens avec lesquels il travaille ou plus globalement avec son environnement, c'est assez critique. Ça a vraiment changé. Et ça nécessite qu'on règle quelques potentiomètres, qu'on ajuste un petit peu les paramètres quand on fait de la formation à l'entrepreneuriat.
Ok, très clair. Est-ce que vous avez l'impression que dans les, on va dire, tous les baby-boomers, est-ce que vous avez l'impression que cette transition vers des ambitions différentes quand on fait du business, est-ce que j'ai l'impression que ces populations, elles ont parfois du mal à jongler avec ce qu'on leur demande aujourd'hui versus ce qu'on leur demandait hier quand ils devaient créer une entreprise? Comment, vous qui passez pas mal de temps avec des entrepreneurs, est-ce que vous avez l'impression que c'est encore difficile? Est-ce que c'est deux mondes qui ont du mal à converger, sans parler de monde d'hier et d'aujourd'hui?
C'est même deux mondes qui se comprennent, j'allais presque dire, de moins en moins, parce que le schéma traditionnel de l'entreprise, c'est de l'analyser à travers son compte d'exploitation. C'est un petit peu comme si on vous regardait à travers un rayon X et on juge juste votre capacité à partir de votre squelette. Compte d'exploitation de l'entreprise, c'est finalement ça, c'est un squelette de l'entreprise. Oui, c'est mieux que le squelette soit costaud, donc c'est mieux que le compte d'exploitation soit costaud pour que l'entreprise tienne bien. Mais on n'en connaît pas la couleur des yeux, la couleur des cheveux, on ne sait pas la musculature, on connaît pas le sourire de cette entreprise, parce que justement, on la regarde à travers ce squelette. Et c'est très compliqué d'expliquer à des investisseurs d'aujourd'hui qu'on peut avoir le plus beau squelette du monde, si on ressemble à rien et qu'on n'a pas de charisme, on n'a pas d'impact, l'entreprise elle ne décollera pas. C'est un petit peu ça. À l'inverse, on peut être le plus souriant, le plus sympa, celui qui a la meilleure énergie extérieure. S'il n'y a pas des soubassements qui sont costauds, ça ne passe pas. Et c'est ce jeu-là qu'il faut arriver à mieux coordonner dans l'analyse d'entreprise qu'on fait quotidiennement. C'est à la fois le potentiel de l'équipe. On dit souvent, une entreprise, c'est l'équipe. Non, c'est pas que l'équipe. C'est le potentiel de l'entreprise associé aux moyens qu'elle se donne pour réussir. Et c'est souvent là qu'on a des difficultés de communication.
Et puisqu'on est sur ce triptyque que vous décriviez précédemment, depuis le début de vos années politiques, alors d'ailleurs, je sais pas si j'ai commis une erreur, mais en fait, votre vie politique, elle commence...
2017.
Mais 2012, oui. vous avez déjà eu des missions...
Oui, je travaillais pour Arnaud Montebourg, notamment, sur la robotique. Oui, depuis 2012, j'ai mis un petit pied dans l'eau. Okay. Mais mon engagement date vraiment de 2017.
Ok. On a le sentiment, quand on essaie de lire un peu votre parcours politique, que vous naviguez assez aisément entre les mouvances et vous avez quelque chose aussi d'un peu iconoclaste dans ce monde-là. Qu'est-ce que vous retenez justement pour le moment, parce que c'est loin d'être fini tout ça, de votre parcours politique?
Ce que je retiens, c'est que le plus important, c'est les idées, c'est pas l'idéologie. Et je crois que ça a été, c'est là où il y a eu à la fois un grand enthousiasme, qui d'ailleurs aujourd'hui pose plein de questions, quand on a entendu parler du « en même temps », hein, c'est-à-dire le grand enthousiasme de dire finalement la droite, la gauche, est-ce que c'est ça qui fonde la société? C'est certainement ça qui fondait la société au XXe siècle. Le capitalisme, qui naît de la révolution industrielle, c'est celui de l'offre et de la demande, c'est la consommation, c'est le toujours plus pour faire plus de profit. C'est une espèce de maximisation de l'économie qui fait qu'effectivement, ben, on maximise l'exploitation des gens, on maximise les volumétries dans les usines, on maximise la communication pour vendre plus. Et par contre, quelque chose a changé à la fin du XXe siècle. C'est l'arrivée justement de ces fameux microprocesseurs, du numérique, de l'intelligence artificielle. Et là, on bascule de la maximisation vers l'optimisation. Et l'optimisation, c'est du compromis. L'optimisation, c'est de la discussion, c'est du débat. Et donc, on peut tout à fait avoir une capacité à faire de l'argent tout en étant très social. L'un n'exclut pas l'autre. On peut tout à fait réussir à stimuler des gens sur d'autres valeurs que simplement vous avez gagné une prime. Donc, je pense que là, il y a une sophistication finalement de l'entreprise qui est en train de naître grâce à cette nouvelle révolution. Que moi j'appelle personnellement, d'ailleurs j'ai fait un livre à ce sujet-là qui s'appelle la robolution, c'est-à-dire ce basculement du monde avec le numérique et l'intelligence artificielle. Et tout ça pour vous dire que ça pose fondamentalement la question de savoir si j'ai prendre des postures en politique, bon ça c'est daté, ou est-ce qu'au contraire je cherche à partager des idées et je peux avoir d'aussi belles idées à gauche qu'à droite, c'est pas le sujet, l'important c'est l'idée.
C'est marrant parce que quand vous avez accepté de venir, je n'arrivais pas à me dire que j'allais vous faire une analogie avec Bernard Tapie, mais en fait, il y a quelque chose en vous que je trouve d'assez américain dans l'état d'esprit. Est-ce que les entrepreneurs d'outre-Atlantique vous inspirent? Est-ce que ce côté un peu désinhibé de ne pas forcément s'interdire des choses, est-ce que c'est un truc qui vous parle ou est-ce que vous vous dites que j'ai juste été faire un parallèle un peu débile?
Ben, je vous laisse à votre parallèle. Je pense que chaque entrepreneur est relativement unique, mais effectivement, il a des modèles et des mentors. Moi, j'ai pas cherché spécialement à ressembler à X ou Y, et certainement pas culturellement. Je suis plus proche d'une philosophie asiatique dans l'entrepreneuriat qu'une d'une philosophie américaine. Je pense qu'il y a un moment donné où on a trop réduit l'entreprise américaine, notamment ce qu'on appelle la start-up, à cette espèce de prétexte à capitaliser dessus et finalement à sortir par le haut en millions de dollars. Il y a un côté pérennité, il y a un côté long terme dans l'entreprise, notamment asiatique, qui m'intéresse beaucoup plus. Et surtout, il y a un côté mission. Faut pas oublier que j'ai été quand même un des députés qui a participé à la loi Pacte, dans lequel, justement, on a révolutionné, je dis bien révolutionné, la définition de l'entreprise en faisant inscrire dans le code que finalement elle n'était pas simplement destinée à faire du profit pour ses actionnaires, qu'elle était aussi responsable de ses externalités et donc de son impact sur la planète.
C'est intéressant que vous parliez d'Asie parce que pour le coup, c'est pas l'image d'Épinal qu'on a de l'entrepreneuriat asiatique. Alors, il y a Asie et Asie, mais par exemple, au Japon, il y a quand même si c'est un pays qui respire un peu la modernité vu d'une fenêtre extérieure, c'est des pays où les conditions de travail et l'emprise de l'entreprise sur l'être humain est quand même un peu différente de ce qu'on trouve dans nos contrées européennes. Malgré ce qu'on peut dire aussi sur le sujet de l'impact environnemental de la Chine, je veux bien que vous élaboriez là-dessus un petit peu sur ce côté parallèle avec l'entrepreneuriat asiatique.
Ben, en fait, quand vous allez dans les plupart des entreprises, alors je parle de mon secteur, celle que je connaissais au Japon, vous avez généralement à l'entrée une espèce d'une plaque que bien évidemment vous ne savez pas décrypter puisqu'elle est en caractère japonais. Puis quand vous demandez ce que ça veut dire, ben, c'est notre mission. Et la mission de certaines entreprises, c'est faire le bonheur des gens. L'autre mission, c'est réussir à faire sourire la planète. Et là, vous dites, mais quel est le rapport entre la mission de cette entreprise qui fabrique des robots, qui fabrique des logiciels, qui fabrique des jeux vidéo, et ça? Et en fait, ça veut dire que ça ancre le projet entrepreneurial dans un projet qui les dépasse largement. Donc, si je reviens à mon histoire de compte d'exploitation, si on se réduit simplement à dire une entreprise, c'est là pour faire du pognon, le maximum de profit pour ses actionnaires ou pour ses employés, que sais-je, on l'a vraiment réduit la sauce à une fonctionnalité. Une entreprise, c'est pas une fonctionnalité, c'est un corps social qui a un rôle à jouer également sur le plan sociétal, sur le plan politique. On ne peut pas s'affranchir systématiquement en disant « Ah non, mais ça, c'est le problème des politiques. Nous, on est dans l'entrepreneuriat, c'est autre chose, on est dans l'économique. » Et cette espèce de chien de faïence entre l'économique et le politique, il a que trop duré. À un moment donné, c'est vraiment un jeu de dupes. L'un a une influence sur l'autre et vice-versa.
Ça me fait penser à la dernière université d'été du MEDEF. En fait, ce qu'on comprenait en filigrane, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ou patrons reprochaient le fait qu'on ait oublié le rôle initial de l'entreprise qui était de faire du profit et qu'aujourd'hui, on leur demande beaucoup de choses, mais que certains disent moi, j'ai créé cette entreprise avec une mission simple et je veux assumer le fait de devoir faire du profit. Et en fait, ça peut poser problème un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence.
Oui, mais je vois très bien à quoi vous faites référence. Et je dis chiche. Quand je dis chiche, ça veut dire que, vous savez, dans la loi Pacte, on dit un truc très particulier. C'est qu'on dit, vous pouvez déposer les statuts d'une SA et puis vous rajoutez que c'est une SA qui a une mission. Moi, je voulais qu'on fasse l'inverse. Moi, je voulais qu'on modifie les statuts de SA pour que, de base, elle soit de mission. Et si vous vouliez décocher le fait qu'elle voulait faire que du pognon, bah, écrivez-le. On verra bien la réaction des consommateurs au bout de la route. Parce que moi, je suis persuadé que sur le moyen terme, les consommateurs, on le voit d'ailleurs déjà aujourd'hui, commencent à regarder si c'est du local, du Made in France, si c'est fait avec des critères de RSE qui vont bien. Alors pour le moment, c'est un peu les early adopteurs. Parce que derrière tout ça, on nous parle de pouvoir d'achat, faut pouvoir le faire, etc. Mais la question commence à se poser. Mais elle va devenir naturelle. Et donc la société qui affirmera que son seul objectif dans la vie, c'est de prendre du pognon sur le dos des autres, elle aura probablement des petits problèmes de moyen terme. Donc je crois que, encore une fois, caricaturer l'entreprise comme machine à profit, c'est aussi ridicule que de vous réduire à votre, à votre squelette.
Avant de rentrer dans le détail de France 2030, est-ce que quelque part vous en avez marre qu'on vous dise que vous détonnez parmi les hauts fonctionnaires? Est-ce que vous pensez que c'est vrai déjà? Est-ce que vous pensez que c'est une force, une faiblesse ou qu'en fait, on s'en fout un peu?
Bon, au fond, on s'en fout un peu. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas la bonne réponse. On s'en fout un peu, c'est-à-dire que je négligerai votre question. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens comme moi qui essayent de faire des allers-retours. Voilà ce que je pense. Je pense qu'il n'y a pas un domaine réservé à de hauts fonctionnaires d'un côté, puis d'entrepreneurs de l'autre. Ces allers-retours, ces ponts, il faudrait les créer. Alors, c'est sûr que ça n'a pas tout à fait les mêmes, le même quotidien, ça n'a pas la même vitesse même. Hein. On a des fois un peu des longueurs, des lenteurs qu'on trouve, mais de part et d'autre, en fait, dans la réalité. Mais je crois que ça serait intéressant qu'on arrive à nourrir plus la mission publique de personnes qui viennent, comme on dit, de la société civile et vice versa. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que on ait cette dynamique. Et j'espère en tout cas, s'il y a une contribution, c'est être la preuve que ça peut marcher et qu'on peut s'éclater dans les deux.
Petite digression. Je déjeunais juste avant avec le vice-président environnement, RSE, tout ça, d'un grand groupe aéronautique. Et il m'expliquait que c'était compliqué pour lui de changer d'industrie parce que il avait un profil un peu trop hybride. Et je pense à tous ces jeunes, et y compris à des gens comme moi, qui ont un profil un petit peu à spectre large. Et parfois, il y a cette impression que être le couteau suisse, c'est une tare, alors que en filigrane, ce que je comprends dans le discours, c'est que ça devrait être une force. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus?
Ouais, c'est clairement être une force, et c'est une force puissante. Je pense que encore une fois, on est dans des schémas, de rentabilité à court terme. On estime que, vous savez, les Américains, je pense à cet exemple, quand ils construisent un mur d'entreprise, ils ont des moellons. Vous avez un directeur financier aux États-Unis qui a été calibré pour gérer une boîte entre 50 et 100 millions de dollars. Puis ça tombe bien, vous en avez un autre, c'est 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Nous, on serait plutôt fabrication artisanale de pierres taillées. C'est-à-dire que chaque personne se taille un peu. Donc finalement, la pierre, elle peut marcher pour 50, elle peut marcher pour 150. Et si je prends cette image, c'est pour vous dire que au bout de la route, on voit les murs qui tiennent le mieux. Et c'est les murs dans lesquels on a taillé. Donc au contraire, plus on a des formes qui sont pas forcément complètement adaptées à notre besoin immédiat, plus on a des chances que ça tienne la route si on les taille correctement. Tailler, ça veut dire si on les intègre, on les forme, on les fait participer. Donc je pense que la réponse simple à votre question, c'est le plus divers, le plus ouvert, le plus agile possible, c'est probablement le meilleur candidat pour n'importe quel poste.
Très intéressant. Merci beaucoup. Entrons dans le sujet, si vous le voulez bien, de France 2030. Est-ce qu'on peut parler déjà d'où... Alors, qu'est-ce que c'est ce dispositif? Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne sont pas des spécialistes ni de la politique ni de l'industrie. Quelles sont ses projections? Et puis, on va dire, quels sont les grands enjeux devant vous pour les 6 prochaines années qui restent sur le plan, en tout cas dans sa version actuelle?
Alors, en octobre 2021, le président de la République a expliqué que face aux défis qui sont devant nous, les défis technologiques, les défis énergétiques, les défis démographiques, géopolitiques, la réponse française, c'était l'innovation. Et pourquoi c'est la réponse française? Parce qu'effectivement, on s'aperçoit bien que c'est un peu comme une chrysalide. On passe d'une société chenille fossile vers une société papillon électrique. C'est-à-dire qu'il y a des bouleversements majeurs qui sont en train d'être là. On est en pleine chrysalide, c'est-à-dire que ça fait mal, c'est moche, c'est compliqué. On voit bien la réaction des gens parce que y a des doutes à se lancer, à se projeter, parce que quand on vous dit effectivement plus rien ne sera comme avant, ça commence par être anxiogène déjà pour commencer. Quand en plus on vous rajoute la couche que c'est votre faute si la planète est en train de mourir, c'est encore plus éco-anxiogène. Donc l'innovation, ça apporte des réponses. C'est pas être technophile que de dire ça, c'est juste se dire il faut bien trouver des voies de sortie. Alors, c'est la voie de sortie, ce n'est pas le toujours plus, ça y est, tout le monde a à peu près compris. La tendance à dire c'est encore moins, c'est-à-dire la décroissance, elle est une réalité, elle est juste tout à fait anti-naturelle. La vie, c'est la croissance, donc commencer à dire on va faire de la décroissance, c'est un petit pas, c'est pas dans le bon sens du temps, parce que la solution, c'est surtout le beaucoup mieux. Donc, ni le toujours plus, ni l'encore moins, le beaucoup mieux, et ce beaucoup mieux, ça passe par l'innovation. Alors, 54 milliards, c'est ce que met sur la table l'État, par une loi unique qui a été votée pour plusieurs années, en disant on va soutenir toutes les initiatives d'innovation, mais on va pas le faire conceptuellement, on va pas dire venez à moi, vous allez voir, c'est un guichet. On va le faire d'une façon sélective sur des objectifs précis. Donc, par exemple, nous voulons fabriquer en France 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Pourquoi ? Parce que la mobilité est responsable de 40% de l'empreinte carbone aujourd'hui en France, des émissions pardon carbone en France. Donc 40%, si on veut les réduire, il faut qu'on aille vers une mobilité électrique souveraine, française. Donc ça veut dire que toute cette chaîne de valeur qui va nous amener à fabriquer 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030 en France, elle va du moteur aux matériaux, aux batteries, aux minéraux pour les batteries, à l'optimisation des moteurs pour que ça se passe bien, etc. Eh bien, toute cette chaîne, elle est soutenue par le gouvernement. En fait, elle dérisque littéralement, économiquement, elle dérisque les investissements dans l'innovation. Et ça, on l'a pour, je viens de le dire, la mobilité électrique. On l'a pour les micro-lanceurs de l'espace, parce que la conquête de l'espace est certainement un des grands défis du siècle. On l'a pour l'exploration des fonds marins, parce qu'effectivement, les mystères qui sont relevés, qui sont au fond de ces mers sont inconnus. Il faut absolument qu'on aille un petit peu comme les conquistadors de l'époque partaient de l'autre côté de l'Atlantique voir ce qui pouvait bien s'y passer. Bah là, les nouvelles frontières, elles sont plutôt dans l'espace, au fond des mers. Et elles sont aussi dans des domaines un peu inattendus comme le quantique, qui vont permettre d'optimiser considérablement les calculs sur les data centers. Donc, c'est sur l'hydrogène vert, sur l'énergie, sur les petits réacteurs nucléaires. Donc autant de domaines qu'on appelle nous des domaines, des objectifs qui sont très calibrés et qui permettent de créer une chaîne de valeur d'innovation que le gouvernement soutient. C'est ça France 2030.
Super clair. En termes d'état du dispositif, j'écoutais une de vos récentes interventions sur Radio Classique, Secret de dirigeant, très bonne émission par ailleurs. Où il expliquait qu'il y a en gros 30 milliards qui sont engagés, 7-8 milliards qui sont dépensés. Mmh. Alors la journaliste s'en émouvait un petit peu, mais qu'est-ce que ça vous évoque à vous ? Est-ce qu'on est à ISO en ce que vous aviez projeté ou
Oui, complètement. Alors, c'est quoi la différence ? C'est du bon sens. Quand vous financez le soutien à une usine, par exemple, le temps que l'usine trouve son terrain, purge les recours, construise son bâtiment, se met à opérationnel, il va se passer quoi ? 3 à 5 ans. Ouais. 3 de façon optimiste, 5 de façon pessimiste. Donc, nous engageons la parole de l'État à un certain moment, mais nous décaissons au fur et à mesure de l'avancement du projet. On ne va pas donner l'argent le jour où il va demander le permis de construire.
On ne fait pas un gros virement.
Non, on ne fait pas un virement. L'État est sympa, mais pas à ce point-là. Donc, qu'il y a un décalage entre les engagements qui sont irrévocables, c'est l'engagement de l'État, et les décaissements qui viennent au fur et à mesure. Alors, ce qui va se passer, ben, tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, tous les dirigeants vont comprendre, ben, c'est une espèce de courbe de Gauss. Au départ, il y a peu de décaissements. Plus on avance dans les projets, plus il y aura du décaissement. Puis, à la fin du projet, ben, il y a une queue de projets qui finit par être finalisée. Donc, comme tout ça se reporte sur 3700 projets aujourd'hui, 3700 projets qui représentent 7000 bénéficiaires, parce que la plupart de ces projets sont en consortium, eh bien, on va avoir une espèce de gonflement de la vague progressivement. Là, effectivement, on en est à 7 milliards. C'est probablement d'ailleurs le chiffre qui va se répéter cette année. Donc, vous voyez, on a fait 7 milliards sur 2 ans, on va faire 7 milliards sur 1 an, on fera peut-être 10 l'année d'après, et la vague se terminera tranquillement.
C'est marrant, elle est bizarre cette question, parce que j'ai l'impression qu'on vous demande si vous dépensez votre argent assez vite, mais c'est quand même rare qu'on pose la question dans ce sens-là. C'est très clair, et donc comment vous qualifieriez 3 enjeux majeurs pour que ce dispositif aboutisse à ce que vous considériez comme un aboutissement positif ? Ce serait quoi les 3 enjeux dans les 6 prochaines années ? les choses qui vous, vont vraiment vous préoccuper pour faire atterrir ce plan là où il doit atterrir.
Alors ce plan, il a un sous-jacent très important qui a été d'ailleurs réinscrit dans la loi, c'est qu'il doit faire 50% de ses investissements doivent participer significativement à la baisse des émissions de CO2 en France. Donc ce plan, il est très concentré sur cette décarbonation, qu'elle soit industrielle, agricole, ou sur cette génération d'énergie nouvelle. Donc dans les critères absolus que je regarde de très près, il y a cette génération d'énergie décarbonée, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit de l'hydrogène, qu'elle soit éolienne, et également la décarbonation des grands sites industriels, qui sont critiques. Vous voyez, on vient par exemple sur Dunkerque de faire un accord avec ArcelorMittal, où on va, c'est 1% des effets de la France, hein, ArcelorMittal, juste les hauts fourneaux de Dunkerque, à Dunkerque, ils en ont une autre unité à Fos-sur-Mer. Eh bien, un accord comme quoi on va remplacer ces hauts fourneaux par la fabrication d'acier électrique. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que ça montre vraiment que grâce à l'État, on accélère cette décarbonation de l'industrie. Ça, c'est la première chose.
Ça, c'est dans le cadre des 50 sites, la dépollution de
50 sites. Ça fait partie des 50 sites, c'est un des 50 sites. Il y en aura d'autres. On est en train de travailler, je vous ai parlé de Fos, on est en train de parler de la vallée de la chimie dans le Rhône, etc., etc. Donc, la deuxième chose importante, c'est regagner en souveraineté sur un certain nombre de domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on soutient le doublement de nos capacités de fabrication de microprocesseurs à Crolles, chez STMicroelectronics, c'est parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dépendant des microprocesseurs qui viennent des États-Unis ou d'Asie. Il va falloir trouver... Donc, c'est le deuxième critère important, cette souveraineté, décarbonation-souveraineté. Puis le troisième, soyons très pragmatiques, c'est l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, les emplois qualifiés, on en manque. Donc, on accélère actuellement avec un plan qui s'appelle « Compétences et métiers d'avenir ». On accélère la formation de femmes et d'hommes dans les domaines de la batterie, du nucléaire, de la bioproduction, par exemple, qui est un des objectifs également, fabriquer des médicaments, fabriquer des engrais à partir du vivant, donc des choses qui sont non plus à partir de la chimie, c'est-à-dire moins polluer et être plus efficace. Ça, c'est la troisième donnée, c'est donc ce plan compétences et métiers d'avenir. C'est 1 million de personnes à l'horizon 2030 qui seront formées. Ça, je le surveille comme l'huile sur le feu.
Super clair, décarbonation, souveraineté, emploi. Joli programme pour les 6 années qui suivent. Écoutez Bruno, on va entrer dans ce qu'on pourrait qualifier d'instant chiffonnade, puisque vous et moi, on va maintenant se chiffonner autour de questions qui vont être passablement directes, voire désagréables, et vous serez libre de répondre ou pas, ou de me jeter un objet de votre choix, même si j'ai tendance à ne pas recommander cette alternative pour des raisons d'assurance. Est-ce que, comme l'a récemment titré l'Express, est-ce que la réindustrialisation française est en train de faire pchit ?
Ben, j'ai répondu à l'Express directement sur mon LinkedIn, en expliquant que loin d'être faire pchit, il fallait juste que les grands analystes que cite l'Express rajoutent des colonnes et des lignes à leur tableur, parce que l'industrie de demain, c'est tout ce que je viens de vous décrire. Alors effectivement, si on regarde juste, est-ce qu'on va faire de la réindustrialisation, c'est-à-dire revenir en arrière et considérer que l'industrie de Zola, c'est celle qu'on doit projeter dans le 21e siècle, on peut avoir des déceptions. Mais si on rajoute tous les éléments dont je viens de vous parler, l'hydrogène, les batteries, le petit nucléaire, etc., non seulement elle va pas faire cheat, mais elle va faire boom très rapidement. On est dans un trou d'air, moi c'est mon analyse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un moment difficile, mais on a quand même ouvert 300 usines depuis 2017, on a quand même créé 50 000 emplois industriels, ce qui n'est jamais arrivé depuis très longtemps, et on est dans cette dynamique qui permet de voir véritablement la place de la France en industrie, donc on est loin de faire pchit.
Est-ce qu'au fond, moi ce que je ressens quand je vois vos prises de parole, c'est qu'au-delà des chiffres et tout ça, ce qui vous énerve un petit peu, c'est la morosité ambiante, quoi. C'est le fait de se dire que quand on a un dispositif, on dit souvent qu'il y a un truc très français, alors je ne sais pas si c'est très français, mais de plutôt voir le verre vide. Moi, je sens que c'est ça qui vous agace plus que les chiffres qui sont avancés. Est-ce que je me trompe ou est-ce que...
Vous vous trompez pas. Moi, c'est, je prends toujours l'image. Imaginez que vous êtes dans une salle de classe en tant que jeune entrepreneur, puis il y a un professeur qui passe derrière vous, qui vous met une calbotte sur la tête en vous tapant, en vous disant « t'es nul ». Puis il repasse une deuxième fois en disant « de toute façon, tu n'y arriveras jamais ». Puis il repasse une troisième fois en vous disant « de toute façon, t'as bien vu, le petit chinois qui a deux tables devant toi, il est bien meilleur ». Puis le petit Amerloc, je t'en parle même pas, il a ses parents qui lui financent tout, tu n'y arriveras jamais. C'est exactement le message qu'on transmet aux entrepreneurs français aujourd'hui. Donc moi, je dis un peu stop. Je dis un peu stop parce que c'est pas le message qui est transmis dans les autres pays. Cette construction de la confiance, elle fait partie de la dynamique du succès. La croissance, c'est pas simplement, encore une fois, combien je mets sur la table, et parce que j'en mets plus que les autres, vous allez voir, je vais gagner. C'est l'imagination, c'est l'innovation, c'est la confiance en soi. Et donc, je pense qu'effectivement, vous avez raison, et j'élève même presque un peu la voix en vous disant, bon, enough is enough, comme diraient nos amis américains, c'est-à-dire, ça suffit. Il y a un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'il y a une dynamique. Moi, j'ai visité 43 départements, toutes les régions de France, y compris l'outre-mer. J'ai vu dans des tonnes de domaines différents des entreprises formidables industrielles qui fabriquent des produits incroyables et qui attendent qu'une chose, c'est de la reconnaissance. Parce que le reste, elle s'en occupe. Elle nous dit surtout, foutez-nous la paix sur le reste, mais arrêtez de dire qu'on est nul.
Très clair, merci beaucoup. Donc, la réindustrialisation n'est pas en train de faire pchit. Une petite question, parce que même si tout n'est pas qu'une affaire de chiffres, on va parler des 15% de PIB de l'industrie en 2030. Alors, aussi direct que cette question puisse être, est-ce que ce chiffre, vous ne l'auriez pas sorti d'un paquet de bonus? Alors, pardon pour bonus, pour la référence de boomer, c'est de la lessive, tout ça. Vous irez voir sur Internet. Mais est-ce que ce chiffre-là, d'où il sort et en quoi il est réaliste ou pas réaliste?
Ce chiffre, il a été déterminé comme un objectif d'une espèce de retour à une France industrielle. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce chiffre? Est-ce qu'on met les industries de l'hydrogène? Oui, non. Est-ce qu'on met les industries du drone? Oui, non. Est-ce qu'on considère que les gens qui fabriquent des outils pour la biofermentation en font partie? Oui, non. Et si vous voulez, c'est là où je dis qu'il faut rajouter des lignes et des colonnes au tableur. Ouais. C'est que quand on dit 15% de l'activité française va vers l'industrie, tout va consister. Si j'avais fait cet exercice, le même que vous venez de me poser, cette question était en 1910. Nous sommes dans un studio de Radio Paris en 1910 et vous me posez cette question. Je vous aurais pas parlé d'aéronautique parce que ça n'existait pas. Je voudrais pas parler d'automobile parce que c'était balbutiant et tout le monde regardait ça un petit peu comme on regardait justement les jeux vidéo en 80. Vous voyez, je pense qu'il y a un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des dynamiques qui sont en place et ce 15% sera en référence à ce qu'on appellera industrie en 2030. Et il y a grande chance qu'on atteigne, voire dépasse les 15%.
C'est un concept intéressant parce qu'en fait, ce que vous dites quelque part, c'est que plus l'industrie devient un réceptacle de plein de choses, plus aussi on la rend visible auprès des gens, peut-être. C'est-à-dire que les drones, spontanément, je bosse dans les drones. Enfin, d'ailleurs, au même titre qu'il y a très longtemps, mon grand-père travaillait dans la chaussure. Il disait pas, le matin, je travaille dans l'industrie. Il travaille
exactement
dans la chaussure. Donc, est-ce que vous avez l'impression, finalement... Mais est-ce que ça amène pas un autre sujet de sémantique? C'est en fait, c'est quoi l'industrie? On comprend plus rien. Enfin, par exemple, l'industrie, c'est un secteur. On dit le secteur secondaire. Je dis pas, bah, moi, je bosse dans le secteur primaire ou je travaille dans le tertiaire. Je vais donner une affiliation. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de brouillard un peu ambiant autour de ce que c'est vraiment, finalement, l'industrie?
Mais vous savez, je vous ai parlé déjà de la métamorphose de la chenille fossile au papillon électrique, même dans la manière dont on va avoir d'analyser à la fois en macroéconomie notre activité et en microéconomie la dynamique des entreprises, il y a plein de questions qui vont se poser. Aujourd'hui, par exemple, la question des filières va se poser. En reprenant le drone, c'est quelle filière le drone? Alors on va dire, ah ça vole, alors c'est aéronautique. Oh, attends, ça vole, c'est aéronautique, excuse-moi, mais il y a des drones terrestres, il y a des drones sous-marins, tout ça, ça fait de la famille des drones. Ah oui, mince. Alors, ah c'est de la robotique. Ah ben non, c'est pas que de la robotique, parce que vous n'allez pas mélanger les drones avec les bras industriels de la peinture. Donc, eh ben on va arriver à la conclusion qu'il va y avoir certainement y avoir une filière véhicule autonome. Et attention, parce que dans les véhicules autonomes, il y a des voitures. Alors, qu'est-ce que je fais? J'enlève les chiffres de la voiture pour les mettre là. Et ça, vous avez raison quand vous parlez de sémantique. Dans cette révolution, vont naître et mourir des filières industrielles. Et donc, attention de ne pas être trop rigoriste là-dessus et modifier encore une fois les lignes et les colonnes du tableau. Et en microéconomie, c'est même encore pire parce que aujourd'hui, on juge une entreprise par son, ouvrez les guillemets, bilan. À l'heure du temps réel, à l'heure de la capacité de savoir à n'importe quel moment où on est l'entreprise et de mesurer ses dynamiques, peut-être qu'on va se mettre à juger les entreprises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire véritablement des tendancielles. Est-ce qu'elle est sur la bonne tendance, la mauvaise tendance? Et en fonction de ça, est-ce que moi, en tant qu'investisseur, je regarde juste si son compte d'exploitation de l'année dernière, révisé, validé 3 mois après, est bon? Ou est-ce que je regarde ce qui se passe tout de suite, là, maintenant, dans l'entreprise pour faire mon pari?
Très clair. Je vais me permettre de décliner si mes calculs sont bons. Et Dieu sait que je ne suis pas ingénieur en mathématiques, donc vous allez me confirmer, je parle sous votre contrôle. En gros, 15% du PIB en 2030, ça voudrait dire que maintenant et jusque pour les prochaines 6 années, on doit créer autant d'emplois chaque année qu'on en a créé entre 2017 et 2022. Je pense que c'est un de ces chiffres notamment qui a fait un peu bondir en disant « est-ce que c'est réaliste, etc. ?» Je vais donner un petit peu de sous-texte parce qu'au-delà de l'analyse de ces chiffres, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc où les Français, quelque part, ont appris à se méfier des grands effets d'annonce. Est-ce que finalement, la sphère citoyenne n'est pas devenue hyper dubitative quand on leur dit « bon, bah tiens, ce sera temps ». En n'assumant pas que ce soit votre cas, mais en tout cas, juste pour vous, voilà, c'est un peu ça que j'ai en tête en posant cette question-là.
Mais en posant
beaucoup d'emplois, quoi.
En posant cette question, vous faites de la politique au sens de...
Aïe.
Oui, bien sûr. Au sens de dire, bah, je fais un calcul avec un référentiel qui est celui du passé et je projette. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut en politique. Moi, je ne sais pas si ça va créer plus ou moins d'emplois. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'on allait former des gens à 2030 qui seront prêts à rentrer dans ces ateliers et ces usines. Ça, c'est une chose. Mais je ne vous ai pas parlé d'optimisation par la robotique. Je ne vous ai pas parlé d'optimisation par l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que moi, l'impact aujourd'hui, il ne va pas se mesurer en termes de est-ce que je vais créer plus d'emplois ou moins d'emplois qu'hier, avant ou demain. On est dans une dynamique qui va appeler des compétences. Et donc, ce qui est certain par contre, c'est que des métiers répétitifs, des métiers qui sont sans qualification, des métiers qui sont très souvent pénibles pour les gens, vont disparaître au bénéfice de métiers mieux rémunérateurs et avec plus de capacités et plus de compétences nécessaires. Moi, c'est plutôt ce pari-là que je fais. C'est une nation intelligente que nous voulons. C'est pas une nation de production copiée sur, malheureusement, des nations qui exploitent les gens comme on le faisait au 19e siècle. Donc, je crois que, justement, il faut pas rentrer dans cette logique. Ah bon, on fait de la croissance, ça fait tant d'emplois. C'est une dynamique qui est plutôt vertueuse. Quand on a un pays qui va bien, ben, on a moins de problèmes d'emploi. C'est juste un fait.
Ok. Ce que ça m'évoque, c'est, bon, si j'essaie de me mettre dans une position un peu extérieure, ce que vous venez de donner comme argumentaire, il est quand même très proche de ce qu'on nous disait quand Serge Turuck disait qu'il fallait une économie intelligente et qu'une économie intelligente, il n'y avait plus d'usines et qu'il n'y avait plus de gens avec des métiers pénibles. Alors, je ne fais pas d'analogie du tout directe entre votre discours et le sien, mais qu'est-ce que ça vous évoque, ce côté-là, de se dire, voilà, on est dans une néo-économie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qui va rester derrière, en fait, qui va rester à la queue de peloton.
Alors, d'abord, le parallèle, là, je peux pas être d'accord avec vous. Je ne sais pas pour quelle raison, j'y étais pas, j'étais trop jeune à l'époque, je ne sais pas pour quelle raison la France s'est rêvée sans usine. Je ne sais pas pourquoi, personne ne sait me l'expliquer. J'ai beau lire les livres très intelligents de plein de gens, personne ne sait comprendre pourquoi il y a eu ce basculement. Moi, je pense qu'il y a eu ce basculement dans deux illusions. Une illusion de mondialisation heureuse, en se disant bah c'est pas grave si on fabrique en Pologne, on fabrique ailleurs, je sais pas moi, en Allemagne, les machines outils, etc. Si la France reste la Californie de l'Europe, tout ira bien. On serait une espèce de pays de cocaïne dans lequel on fait de l'intellectualisme et du tourisme. Ça, je ne sais pas. Ce traumatisme, en tout cas, il n'est plus d'actualité. La guerre en Ukraine l'a démontré. Le Covid, juste avant, l'a démontré. Et donc, il y a une prise de conscience différente. Donc, le référentiel n'est pas du tout le même. Le mien de référentiel, c'est de dire, moi, je veux certainement pas qu'on arrête la production, mais qu'on arrête de penser que l'industrie, c'est Zola, que l'agriculture, c'est Peggy, et que l'école, c'est Jules Ferry. La France n'est pas ancrée dans son 19e. Elle a à se projeter dans son 21e. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut créer une dynamique de croissance économique pour que naturellement, les entreprises aient besoin, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, elles ont besoin de gens compétents. Je rencontre plein d'entrepreneurs qui me disent « je ne trouve pas de personnel, je ne trouve pas de gens qualifiés pour ces tâches-là, donc je suis obligé de ralentir ma croissance ». Donc, je suis pas en train de vous dire « je veux arrêter les usines du tout », je fais exactement l'inverse. Mais je suis plutôt dans une néo-industrialisation, c'est-à-dire une industrie qui intègre la robotique, qui intègre l'intelligence artificielle, qui intègre des nouvelles méthodes de production par rapport à une espèce d'usine dans laquelle la seule main-d'œuvre et force de travail était l'être humain, et comme c'était le cas au début du siècle dernier. Donc je pense qu'il y a une vraie différence, hors de question de ne pas produire en France. Par contre, produire de façon plus intelligente, à plus haute valeur ajoutée, parce que notre modèle social nécessite qu'on dégage des grosses marges. C'est juste un fait. Donc, faire la course à la bagnole la moins chère, à l'iPhone le moins cher, ou je ne sais pas quoi, c'est pas un combat pour nous. Nous, c'est un combat de valeur ajoutée. Okay. Et évidemment, je mets de côté tout ce qui serait, je dirais, souverain, essentiel, qu'on lui était pendant le Covid, le médicament et autres dispositifs médicaux dont on avait besoin, où là, c'est plus de la protection qu'un développement industriel de croissance.
Super clair. On fait un petit pas de côté sur le foncier. Ça pose pas mal de questions. Je reste sur les chiffres. En gros, 15%, c'est pas loin de 150 000 hectares de foncier supplémentaire. Il y a pas mal d'alertes qu'on reçoit de manière plus ou moins formalisée d'entrepreneurs qui veulent développer du foncier. Je ne parle pas que des freins administratifs que vous avez déjà évoqués qui tendent à baisser. En tout cas, il y a une volonté, une annonce dans l'envie de le baisser. Qu'est-ce qu'on va faire? On a un petit pays. Enfin, comment ça se matérialise? Parce qu'en fait, c'est l'empreinte au sol de l'industrie peut être assez développée. Donc, est-ce que ça peut bloquer à un moment donné si on atteignait ces chiffres?
Bon, d'abord, il y a plein de places. Il faut commencer par... C'est simplement, tout le monde veut la place au même endroit. Mais il y a plein de places, en fait, en France. La réalité de cette néo-industrialisation, c'est la redécouverte d'autres territoires. Moi, je vois notamment les villes moyennes qui, actuellement, sont en train de boomer sur ces segments-là parce qu'elles ont de la place et elles peuvent accueillir pas mal de gens dans des zones qui étaient considérées jusqu'alors relativement peu productives, voire désertées.
Je pense à Chalon en ce moment, avec Saint-Martin, qui font énormément de bruit autour de... Ils veulent devenir la capitale.
Très bon exemple. Chalon-sur-Saône est un exemple, mais je pourrais vous en citer quasiment dans tous les départements. Vous voyez, mais j'ai une usine formidable, c'est à Aurillac, au milieu du Cantal, qui fait de la bioproduction, qui est un des leaders européens de la bioproduction. Elle est là, posée au milieu du Cantal. Pourquoi? Parce que c'est l'origine des fromages. Fromage ferment, bioproduction, etc. etc. Donc, une vraie logique. Mais Belfort, Béziers, toutes ces villes qu'on considère un petit peu comme étant des villes du passé, industrielles de la France, etc., sont en train de se régénérer. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'ouvrir les chakras. Le retour de l'usine en ville, ça doit devenir une réalité. Aujourd'hui, des usines propres, à énergie propre, qui peut être au cœur des centres-villes, c'est possible. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a commencé, en fait, la révolution industrielle. Si, pour ceux d'entre nous qui nous écoutent, qui ont été un jour à New York, vous voyez bien que il y a des quartiers entiers de New York, on vous dit que c'était des anciennes usines qui ont été transformées ultérieurement. Le phénomène inverse est en train de se produire. On a des bâtiments-services qui deviennent des bâtiments de production. Donc, je pense que, quand j'ai ouvrir les chakras, ça veut dire qu'il faut peut-être pas penser le schéma comme un schéma traditionnel où je veux simplement m'étendre physiquement. On peut monter en hauteur, on peut aller en ville, on peut avoir des usines en étage. Donc, il y a une réflexion à avoir sur l'aménagement. Et pardon, mais on peut pas tenir de discours. On peut pas tenir le discours je veux un environnement et une biodiversité qui garantissent en France une belle qualité de vie. Et en même temps, je continue à prendre des terres arables pour les recouvrir de béton. Et là, il y a un discours qui est aussi ridicule dans l'extrême, dans un cas, que dans l'autre. Et donc, la vérité va être dans l'équilibre des deux.
Très clair. Merci beaucoup. Un petit pas sur l'énergie, parce que 15% de PIB, ça veut dire un accès à l'énergie bon marché. En France, on se targue beaucoup dans les médias d'avoir le nucléaire et donc d'avoir une électricité qui soit plutôt meilleur marché qu'ailleurs. Sauf que si on compare, bon, encore une fois, vous n'avez pas aimé cette comparaison, mais aux États-Unis et puis surtout aux autres pays d'Europe, le prix est indexé, enfin c'est un prix européen. Est-ce que c'est vraiment un avantage compétitif? Et surtout, est-ce qu'on va avoir assez d'énergie décarbonée pour alimenter toutes ces nouvelles usines qui, Dieu sait, consomment quand même encore un petit peu d'énergie?
Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est comparaison avec les États-Unis ou la Chine sur leur prix de l'énergie qui est vraiment très décalé par rapport à ceux de l'Europe. Il n'y a pas de débat. On revient sur la question de l'éthique. Dans quelles conditions est-ce qu'ils produisent cette énergie? Et s'ils la produisent de façon carbonée massive, comme c'est le cas aujourd'hui, à l'Europe de décider, c'est pas à moi autour de cette table, c'est pas à vous, c'est même pas aux citoyens français, c'est vraiment aux citoyens européens, brûlant d'actualité avec ce que nous allons mettre dans l'urne dans quelques semaines. Il faut que l'Europe décide que quand un produit qui a été fait avec cette énergie arrive dans nos frontières, eh bien, il doit être taxé d'une manière ou d'une autre. On n'y échappera pas parce que sinon la concurrence sera déloyale. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on arrête le commerce mondial, ce qui serait une bêtise pour plein de raisons. Et qui n'arrivera pas de toute façon. Ouais. La deuxième chose dans votre question, c'est de dire, oui, mais est-ce qu'on aura assez d'énergie? C'est bien pour ça que le plan France 2030 travaille à lancer des plans sur les éoliennes, les petits nucléaires. Les petits nucléaires sont ces petits réacteurs nucléaires qui utilisent les combustibles dégradés des EPR pour pouvoir fournir de l'énergie décarbonée sur site. C'est vraiment, France 2030, c'est vraiment une analyse assez systémique de la problématique. Vous avez entièrement raison. Un des grands rendez-vous, probablement autour de 2045-2050, ça va être de dire, est-ce qu'il y aura les 50%? 2050, c'est 50% de plus de consommation d'électricité en France, en projeté, entre la mobilité électrique, la modernisation des usines, les nouveaux usages de l'électricité, la fabrication d'hydrogène, etc., etc. Eh bien, ça, c'est un point de rendez-vous très important sur lequel on doit être très concentré. Alors, quant au prix, l'ajustement de prix, il se fera forcément par rapport à une qualité de produit qui justifiera les marges qu'on veut en dégager. C'est là que va se poser une grosse question d'arbitrage entre ce qu'on va appeler la qualité de vie ou la qualité de produit et le pouvoir d'achat. C'est un sujet politique qui, à mon avis, assez majeur, mais des élections qui sont devant nous.
Super, merci pour la clarté de votre réponse. J'avance un petit peu, le temps passe bien vite à vos côtés. Il y a un certain nombre de journalistes, d'organisations professionnelles qui semblent avoir été assez sensibles à ce qui a été considéré peut-être comme une attaque personnelle vis-à-vis d'Olivier Landy, qui explique qu'en gros, on atteindra maximum, alors lui, ses chiffres, entre 12 ou 13% du PIB en 2035, dans le cadre de la mission qu'il mène pour Bercy autour de l'impact de la réindustrialisation. Est-ce que cette sortie, elle a tout simplement été mal comprise? Le fond de ma question, c'est est-ce que c'était dans cette vague un petit peu d'agacement? Est-ce que c'est parce que vous considérez qu'aujourd'hui, il faut faire corps et qu'il manquait des lignes au tableur? Qu'est-ce qui fait que ça a pu être perçu comme ça, tout simplement?
Vous savez, la démocratie, c'est le débat. Ma réponse a été simple. On s'affirme, où on est objectivement un expert d'un domaine. Bon, ben, on a le droit de pas être d'accord. Et heureusement qu'on fait avancer le débat en n'étant pas d'accord. Il est clair que je ne suis pas d'accord. Et on s'est vu, on se connaît bien. Vous savez, on a fait Territoire d'Industrie ensemble, donc on se connaît très très bien. La question derrière ça, elle était celle que je vous ai évoquée tout à l'heure. C'est, faut pas décourager Billancourt. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'hommes politiques de gauche à l'époque en disant, il y a un moment donné, vous devez accepter l'idée qu'il y a des choses qui sont possibles. Alors si vous partez au départ en disant, de toute façon, tu ne gagneras pas, tu n'y arriveras pas. Combien de personnes vont baisser les bras et choisir des alternatives? Ouais. Donc c'est pas du tout une saute d'humeur de mon côté. C'est une conviction profonde que, en voyant, en observateur objectif que je suis de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire français, oui, je suis très optimiste sur le développement d'une France prospère dans le domaine industriel, au sens générique que j'ai évoqué plusieurs fois, d'ici 2030. Sinon, je ferais pas mon job. Si je commençais par vous dire, je suis responsable de France 2030, vous savez, la France 2030, de toute façon, elle sera dans un état encore pire que celui d'aujourd'hui, autant que je pose m'ADEME, hein, ou que j'aille faire autre chose.
Je comprends le rapport sur le sujet de l'optimisme. Est-ce que vous avez pas l'impression, parfois, que, et c'est pas simplement lié à ce cas-là, mais que on voit une espèce d'opposition, toujours un petit peu dans les sphères médiatiques, entre les experts et les politiques? Et on a l'impression qu'en fait, ces deux entités-là peinent à faire corps. Et je pense aux grandes sorties de Jean Covici, qui nous dit quand même plus ou moins à certains moments que les gens, même tout le ministre Béchu, etc., n'ont pas vraiment compris la magnitude des enjeux environnementaux. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un combat hyper contre-productif? En tout cas, l'impression qu'il y a un débat, une espèce d'opposition entre les experts puristes de leur domaine et les politiciens qui auraient une vision peut-être un tout petit peu plus... Est-ce que vous voyez où je voulais en venir?
Je pense qu'il ne faut pas confondre les autres. Il ne faut pas confondre les genres. Un expert, c'est quelqu'un qui va donner un avis objectif sur une situation et qui va en tirer des conclusions. C'est quelqu'un qui va analyser un problème. C'est ça, un expert. Il l'analyse. Et il dit, voilà, moi, mon avis, voilà, il se passe ça. Mais un politique, c'est un mec qui prend des décisions. Et qui dit, dans ce contexte-là, je décide qu'on va faire ça. C'est pas tout à fait la même chose. Et l'un doit pas mélanger à l'autre.
Mais ils doivent écouter les experts, les politiques.
Mais attendez, rassurez-vous, ils écoutent que ça. Et moi, le premier. Mais j'en écoute pas un, j'en écoute 25. En me disant, sur tel sujet, sur l'hydrogène, sur le nucléaire. Bon, que disent les experts avec un S? Et je comprends que on puisse avoir, on peut exprimer une opinion sur un domaine, mais des angles différents, il y en a heureusement beaucoup. Et c'est cette capacité, le politique, c'est cette personne qui va prendre ce prisme d'expertise pour en faire finalement une décision. Elle peut plaire ou ne pas plaire. On peut ne pas être d'accord avec la décision prise, mais il n'empêche que c'est son job de la prendre et d'y aller. La décision qui a été prise par le président de la République, c'est de dire, de toute façon, nous allons mettre 54 milliards, votés par le Parlement, je vous rassure, c'est pas tout seul qui l'a décidé, mais nous allons mettre 54 milliards pour donner une impulsion d'innovation à la France dans tel et tel et tel domaine. Bon, il y a des experts qui vont dire, on met pas assez là-dessus, on aurait dû mettre plus là-dessus, ou au contraire, ça sert à rien d'y mettre. Mais je pense que il n'empêche qu'il a tranché et qu'il a décidé. Et je pense que c'est là qu'est l'ambiguïté entre cette capacité d'analyse d'un côté et la capacité de synthèse de l'autre. Une fois que la décision est prise, on peut continuer à la critiquer. Ça s'appelle l'opposition démocratique. Bon, après, il y a des élections régulièrement et on peut dire on a décidé de changer d'avis. Mais le pire de tout gouvernement, c'est de remettre en question des tendances longues du gouvernement précédent. Et ce qu'on peut reconnaître à un certain, notamment au dernier gouvernement, moi en 2017, je m'étais dit, bon, on va faire du passé table rase comme d'habitude, on va repartir à zéro. Pas du tout. Il y a énormément de politiques publiques qui ont été poursuivies. Il y en a d'autres qui ont été heureusement initiées, on en avait besoin. Et il faut espérer qu'il y ait une certaine continuité de l'État sur le long terme.
Ok. Est-ce que vous avez l'impression que, quelque part, ce qui peut amener ces débats-là ou ces désaccords-là, c'est aussi parce que peut-être que ce qu'on certains qualifient de politique d'échec a finalement peut-être assez duré en France. Enfin, ce côté attribution d'enveloppe et on donne des chèques aux entrepreneurs et derrière, on attend que ça retombe par capillarité dans l'économie française, dans les foyers des citoyens. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un petit peu une baisse de confiance par rapport à la façon dont on attribue ces enveloppes? Voilà, c'est indirectement ma question, c'est comment on réconcilie, comment on recrée de la confiance entre les choix qui sont faits et entre ce que les gens attendent au pas de leur porte comme résultat quelque part.
Le problème, vous l'avez dit, c'est le pas de la porte, c'est le pas de temps. C'est que quand on se lance dans la fusion nucléaire ou dans l'hydrogène vert, on est sur des pas de temps de 5 à 10 ans. On n'est pas sur des pas de temps de la semaine prochaine. Et en fait, l'art politique de l'opposition, souvent, c'est de mélanger les deux. C'est de dire, voyez bien, ça ne donne pas de résultat immédiatement. Mais attends, mon ami, ça, on n'avait jamais l'intention d'en donner avant 5 ans. Les premiers résultats de France 2030, c'est-à-dire qu'on a commencé à investir il y a 2 ans, les premiers résultats tangibles seront vers 2027. Avant, il ne va pas se passer grand-chose dans la réalité. Donc, cette notion de pas de temps, elle est critique. C'est pour ça que je vous parlais des politiques temps long du gouvernement. Et l'excitation sur le court terme. Je vous donne un exemple très concret. On investit énormément, près de 5,5 milliards sur la santé en France 2030, hein, sur les nouvelles thérapies compliquées, etc. Et les gens nous disent, oui, mais vous faites ça, mais en attendant, on a des problèmes de déserts médicaux, on a des problèmes de lits d'hôpitaux, on a des problèmes... Mais attendez, c'est pas le même coin de la République, c'est pas la même... pas le même département, c'est pas parce que c'est le gouvernement que il y a d'autres personnes qui s'occupent de ces sujets-là. Et l'un n'est pas en contradiction avec l'autre, parce que si on fait des révolutions médicales à 5-6 ans, qui vont permettre justement de régler une partie des problèmes de déserts médicaux avec de la téléconsultation, avec des possibilités d'avoir des centres de tests à distance, avec que sais-je, on aura fait partie de la solution du problème. Donc des fois, c'est pas rattraper dans l'urgence une situation d'être politique. C'est gérer le mieux possible l'urgence et surtout d'anticiper pour pas qu'on retombe dans la même urgence quelques années plus tard.
Ce que je comprends aussi, c'est que vous demandez quelque part dénoncer l'incohérence avec cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on prend du micro en disant ça ne va pas, enfin, voilà, il ne faut pas mélanger les sujets, la tentation est énorme, notamment pour l'opposition. Et on voit ce que ça donne parfois, d'ailleurs, sur les bancs de l'Assemblée. Je vais citer une dirigeante de grande entreprise que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit « Souscrire à France 2030, c'est trop contraignant, c'est trop compliqué. France Relance était quand même drôlement plus simple. » Et un autre dirigeant qui me disait notamment qu'il avait embauché quelqu'un qui était spécialisé dans le fait d'aller trouver et souscrire aux subventions pour obtenir... Qu'est-ce que ça vous évoque? Je pense que, regard de votre visage et votre petit sourire, ça ne doit pas être la première fois qu'on vous en parle.
Non, ça m'évoque que c'est confondre les choux et les carottes. France Relance, c'était un guichet. France Relance, vous remplissiez un formulaire et dans 95, voire 17% des cas, vous receviez ce que vous avez écrit sur le formulaire, dans des limites d'ailleurs qui étaient contraintes, puisque les maximums, c'était de l'ordre de 700 à 800 000 euros. France 2030, c'est pas du tout ça. C'est un concours d'excellence. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut nous démontrer que vous avez une solution qui est d'excellence. Donc, c'est à l'inverse d'un guichet, il faut passer un certain nombre d'épreuves, et notamment passer devant des jurys qui demandent des documents, qui demandent à se renseigner. Et par contre, l'échelle de grandeur n'a rien à voir, puisque on oscille quelque part entre quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs milliards d'euros. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même gestion de l'argent public. Donc, quand, et en plus, vous m'avez dit une grande dirigeante, dont je suis ravi, ça veut dire que certainement son projet est mérité de le regarder en millions d'euros. Oui, quand on doit dépenser des millions d'euros, je considère que c'est normal de passer un peu de temps. En tout cas, moi, en tant que chef d'entreprise, si j'avais quelques millions d'euros à la clé, j'hésiterais pas à regarder. Maintenant, c'est vraiment un concours d'excellence. Et il arrive que des gens chutent au pied du podium, soient frustrés. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent représenter leur dossier sur une nouvelle relève, quand il y en a. Mais c'est vrai que c'est pas un guichet standard où on dit « j'ai demandé, j'ai reçu ». Il y a une discipline qui est différente entre les deux. Par contre, depuis que je suis là, on a divisé par deux le temps d'instruction des dossiers, ce qui est déjà une belle performance. Et en plus, on a maintenant des conseillers qui sont de plus en plus affûtés pour déjà dire à l'avance ce que, si ça vaut le coup ou pas, te lancer dans la bataille de France 2030. Ça, c'est un grand progrès aussi.
Merci beaucoup, Bruno. Pas mal, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'analogies. Alors, vous êtes un homme d'analogie, déjà. Vous aimez beaucoup les analogies.
Oui.
Mais il y a aussi beaucoup d'analogies pour parler de vous. Du monsieur à innovation, à Aimé Jacquet de France 2030. Alors, je vais m'attarder sur celle d'Aimé Jacquet, justement. Est-ce que, comme Aimé Jacquet, vous vous sentez mal aimé parfois? Et finalement, c'est qui votre journal d'équipe à vous?
Non, je me sens pas mal aimé. J'aime bien cette comparaison parce que moi, je me rappelle que quand il est nommé comme sélectionneur, tout le monde rigole en disant « Non mais ce type avec un drôle d'accent qui vient de nulle part, qui est pas du Sérail finalement, hein, qui était pas cette espèce de joueur d'exception qu'on attendait, etc. » Fait une sélection sur laquelle, évidemment, toute la France a des commentaires à faire. C'est trop long, c'est trop compliqué, c'est pas eux, c'est pas les bons, je l'aurais pas fait comme ça et tout. Et finalement, au fil des matchs, rallye de plus en plus de gens, jusqu'à cette acmé qui a été... à la fois le France-Italie et après la victoire contre le Brésil, où là on s'est dit mais c'est incroyable et on gagne la Coupe du Monde. Ben moi mon objectif c'est qu'on gagne cette Coupe du Monde de l'innovation. Ça va pas être simple, on a des grosses équipes en face, mais on a les bons joueurs. On a les bons joueurs, il faut les entraîner, il faut les entraîner au sens je vous entraîne, je vous emmène dans une histoire, dans un imaginaire. Et je pense que mon journal, l'équipe à moi, c'est paradoxalement, c'est le type, et je dis pas ça parce que je suis à ce micro, mais c'est le type de médias que vous représentez. À savoir des médias qui vont au plus fin des auditeurs, qui sont peut-être moins généralistes, moins finalement spécialistes de tout, mais à qui il faut convaincre pied à pied. Que oui, regardez, là on a fait une ouverture, là on en a fait une autre, là ça progresse, et puis petit à petit se forge dans la tête des gens l'idée que France 2030 c'est peut-être pas une idée aussi simpliste qu'on a bien voulu la présenter, simplement en la résumant à 54 milliards.
C'est super clair, merci beaucoup. Si Emmanuel Macron, Bruno Le Maire vous passent un petit coup de fil un soir, un peu tard après le dîner, en disant Bruno, on devrait investir dans cette boîte là, ça a l'air pas mal du tout, c'est quoi le process? Est-ce que déjà vous dites oui? Est-ce que vous dites non? Est-ce que vous dites peut-être? Et c'est quoi finalement le process pour que tout ça parte pas à volo?
Que ça soit Emmanuel Macron, Bruno Le Maire ou Monsieur Schmoll, s'il m'appelle en me disant regarde cette boîte, ça vaut le coup, je vais la regarder. Ça c'est le principe de base. Parce que j'estime que si j'ai confiance dans la personne qui m'appelle en me disant j'ai repéré un truc, et ça m'arrive tous les jours et en permanence. Je parle pas d'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, je parle des autres. Sans arrêt, je reçois des textos, des mails, regarde cette boîte, c'est intéressant. Là, il y a un process. Process numéro un, est-ce que ça rentre dans les objectifs de France 2030?
Ouais.
Bon, oui, non.
C'est un filtre, quoi.
Voilà, c'est un problème. Après, c'est si ça rentre, c'est encourager la boîte à faire un dossier. C'est-à-dire que, effectivement, elle prenne sa plus belle plume et elle commence à refaire son dossier et de nous démontrer l'excellence de son projet. Et là, il va voir un jury qui est indépendant du gouvernement par la loi. C'est la loi qui nous oblige à faire ça. Et j'espère que cette boîte ira au bout. Et si effectivement, elle a été conseillée par des gens sérieux et de valeur qui ont d'abord réfléchi, bah oui, il y a des grandes chances qu'elle puisse aller au bout. Mais en tout cas, c'est pas le process inverse. Elle n'ira pas en haut de la pile parce qu'elle est appelée par quiconque.
Ok. Est-ce qu'il y a des lots de consolation dans cette course-là?
Alors, les lots de consolation, je vais vous dire, ils sont intéressants parce que d'abord, on a le droit d'être conseillé pour revenir en deuxième semaine, ouais. C'est-à-dire aller sur une nouvelle relève, c'est-à-dire d'affiner son projet. Ça, c'est pas mal. La deuxième chose, comme l'autre consolation, c'est qu'on s'est aperçu que ça donnait une exposition aux boîtes. Même si elles n'avaient pas la subvention, elles sont quand même passées par un filtre. Et nous, on est capable de faire ce qu'on appellerait des lettres de confort, hein, s'il le faut, à des entreprises, en disant que, effectivement, on n'avait que 10 places pour ce concours et vous êtes arrivé 11e. C'est dommage, mais vous êtes quand même arrivé 11e sur un total de 55. Ça vaut peut-être le coup que vous soyez considéré par votre banque, vos investisseurs, etc., comme étant intéressant. Parce que, vu la diversité des projets que nous avons, oui, il y a des excellents projets qui arrivent juste au pied du podium final, mais qui méritaient quand même qu'on les regarde si on était un investisseur, ils méritent d'être regardés et analysés. Bon, après, il y a une dynamique, cette fois-ci, plus globale de se confronter à un jury d'experts dans un concours type France 2030 qui est en lui-même une consolation parce que ça veut dire qu'on s'expose quand même d'une façon assez détaillée à des questions relativement complexes.
Ça, c'est votre côté qui veut être mon associé ou The Apprentice, plus exactement. On approche dangereusement de la fin. Vous aimez beaucoup Lou Reed, je crois, et une de ses chansons s'appelle « I'm so free ». Et dans un podcast récemment, vous parlez de votre parcours en politique et en fait... C'est un ressenti, encore une fois, mais on peut avoir l'impression que la vie politique, pour un homme comme vous, ça peut être, ça peut un peu museler. Est-ce qu'on peut s'engager auprès du gouvernement et rester saufri, comme le chantait Lou Reed ?
Oui, on peut absolument, contrairement à ce qui est... Il faut jouer les règles de loyauté. Il y a une différence entre la loyauté et le carcan. La loyauté, ça veut dire respecter une ligne. Je vous l'ai déjà dit, je pense que fondamentalement, nous sommes dans une logique d'équilibre entre ces extrêmes, dans un moment très compliqué de l'histoire de France et du monde, dans lequel les tentations à aller simplifier les choses sont grandes, dans un monde qui se complexifie de plus en plus. Donc, il faut simplement toujours avoir le sens de la nuance. Et je pense que c'est quelque chose qu'on perd parce qu'on veut cliver. Vous savez, le grand mot, c'est on veut cliver, on veut faire des choses qui sont comme ça impressionnantes, alors que c'est plus l'impression qui compte, c'est l'expression. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut au contraire que on continue à garder une parole la plus libre possible, mais dans un tunnel de loyauté qui permettent de dire que oui, attention, il y a des choses qui peuvent être disruptives, mal comprises, sorties de leur contexte, extraites complètement de leur contexte, et qui feront après qu'il y aura des ambiguïtés sur la parole prononcée. Mais moi, je me sens absolument totalement libre de dire et de faire à peu près ce que je veux dans cette loyauté.
Exemple récent, pas mal de conseillers à l'Élysée, dans les ministères, ont pu un peu quitter bord quand il y a eu la loi sur l'immigration. Vous, comment le... Je n'avais pas spécialement envie d'amener ce sujet-là sur la table aujourd'hui, mais comment est-ce que ça résonne et est-ce que finalement la loyauté ne passe pas aussi par le fait de, quelles que soient ses ambitions et son habitus social personnel, se dire que voilà, on est entré dans cette maison-là avec un courant qui suit une direction et on accepte. Est-ce que c'est fidèle ?
C'est pas comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mais passer l'idée avant l'idéologie. On a un vrai sujet sur l'immigration en France aujourd'hui, c'est pas à peine de le nier. Rester dans des postures me paraît pas sain. Analyser le problème plus finement, rentrer dans la complexité du sujet, notamment sur l'intégration, par exemple, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Dans le cadre de France 2030, nous finançons des formations aux Français langue étrangère, pour vous donner un exemple. Parce que si ces gens qui viennent de pays étrangers pour aider notre pays à se développer ne parlent pas français, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut raisonner comme ça. Il faut même en faire une condition, probablement, à leur intégration demain dans le corps social français. Donc, on peut pas encore une fois être caricatural en disant j'ai toujours dit que ma limite c'est ça, ma ligne rouge c'est ça. Je pense qu'il y a une ligne rouge à avoir, c'est celle des extrêmes. Il faut être catégorique et là-dessus moi je le suis d'une façon déterminée. Mais quand les idées sont intéressantes, elles ne doivent pas être récupérées en disant je vous l'avais bien dit. Parce que on voit bien le discours ambiant sur l'immigration, notamment de certains partis qui disent « Ah, ce sont nos idées qu'on reprend après des années ». Ce ne sont pas du tout les mêmes idées, ce ne sont pas des idées d'exclusion, ce sont des idées d'inclusion au contraire, d'inclusion sélective, pour que justement on ait une nation qui soit finalement de plus en plus métissée. Ça, c'est la destinée de chaque nation vivante, mais en même temps de plus en plus inclusive. Et pas ghettoisé ou wokisé, comme je l'entends beaucoup dire, le nouveau mot à la mode, qui est le pire qui peut arriver à une nation, c'est se retrouver complètement justement fragmenté. On n'est pas l'Amérique, on est la France. C'est une grande caractéristique de notre pays, c'est de arriver à faire un espèce de mix compliqué qu'on a toujours connu. Vous savez, moi, je suis d'une génération où notre intégration, c'était les Italiens et les Espagnols. Et que faisaient ces gens-là quand ils arrivaient en France? Ils interdisaient à leurs parents, à leurs enfants de parler leur langue natale, pour qu'ils s'intègrent plus vite à la France. Ils voulaient qu'ils perdent leur accent d'origine. Bon, c'était un autre temps. Là, nous sommes dans une autre génération. Mais de là à dire, je vis dans ce pays, mais j'en rejette toutes les valeurs et je n'en respecte aucun critère, notamment de laïcité, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut nuancer, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut rester loyal et garder des idées, les faire progresser. C'est moins spectaculaire, mais c'est plus efficace.
C'est très clair. En guise de conclusion, Bruno Bonnel, ce que je vous propose, c'est de vous adresser à deux types de personnes. On va le faire successivement. Première typologie de gens, des gens qui peinent à avoir confiance en les politiques en place. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire à ces gens qui pensent qu'au fait, aujourd'hui, les politiques en place ne vont rien faire, qui vont les aider à aller mieux et que la France part à volo. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire là maintenant ?
Ben, j'ai envie de leur dire que les politiques sont des femmes et des hommes qui valent bien plus que vous pensez parce qu'ils s'engagent, contrairement à la légende urbaine, sont des gens qui ne profitent pas d'aucun système, qui au contraire sont plutôt engagés d'une façon assez sincère dans leur démarche vis-à-vis des autres, et que il faut apprendre à les connaître avant juste de les juger. Et il faut surtout apprendre que le miroir déformant de quelques-uns n'est pas la généralité d'un grand groupe de personnes qui sont impliquées. Et enfin, que si vraiment la chose politique intéresse les gens, qui s'y engagent. Parce qu'on ne peut pas dire « ça ne m'intéresse pas » parce que ça a une influence directe sur notre quotidien.
Donc, comme l'industrie, d'ailleurs.
Comme l'industrie. Donc, ça veut dire qu'il faut un côté, si vous voulez, observateur qu'il faut arriver à dépasser pour s'approcher des gens et les écouter. Voilà ce que je leur dirais.
Et pour finir, qu'est-ce que vous diriez aux gens, aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, on parle beaucoup des jeunes et de l'industrie, mais il n'y a pas que les jeunes, on en a parlé à nombreuses reprises ici. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne se sentent pas très touchés par les sujets industriels aujourd'hui pour les convaincre de, à minima, se saisir du sujet, d'essayer d'en savoir un petit peu plus, sans parler même d'aller bosser dans ces secteurs, mais au moins de comprendre et de s'approprier ce sujet, disons.
Bah, cela, moi, je pense que je dirais, venez découvrir ce qu'est l'industrie aujourd'hui. On a cette caricature qu'on apprend sur les bancs de l'école quand on lit Germinal, quand on lit cette espèce de culture française nourrie de l'industrie qui est sale, des charbonneuses, etc. Et dans la réalité, c'est un des territoires d'épanouissement qui sont assez remarquables quand on réussit à faire des choses. Donc, le génie de l'homme, vous savez, il est né de l'outil, hein, il a amélioré notre dextérité, puis ensuite la machine a amplifié notre force. Là, on arrive à un moment où l'intelligence artificielle va augmenter nos cerveaux. Donc c'est ça le génie de l'homme, c'est de poursuivre un progrès et de l'adapter maintenant à son environnement d'une façon respectueuse. L'industrie, c'est respectueux de l'environnement, ce sont les solutions de demain. Donc quand on veut donner du sens à son action, fabriquer des objets d'une façon justement respectueuse de l'environnement, c'est une force. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Oubliez les 30 glorieuses. Pensez aux 30 vertueuses. C'est celles qui sont devant nous.
Très belle conclusion. Il va me rester à vous remercier, Bruno,
merci à vous.
D'avoir passé cette bonne heure même, bien tassée avec nous. Merci pour votre venue. À celles et ceux qui nous écoutent, déjà merci d'être allés au bout de cette émission passionnante. Vous savez où nous retrouver sur les réseaux sociaux et on vous retrouve pour une prochaine émission passionnante du podcast Industrie for Good. À très bientôt.